Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Dominique Fernandez, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler ensemble du troisième dictionnaire amoureux que vous publiez, cette fois consacré à Stendhal, paru en janvier 2013. Dans cette fameuse collection chez Plomb-Perrin, vous avez publié un dictionnaire amoureux de la Russie en 2004 et un dictionnaire amoureux de l'Italie en 2008.
C'est moi qui ai inventé le concept, comme M. Simoen l'a reconnu dans la préface du Voyage amoureux d'Italie. Parce que j'avais créé un livre qui s'appelait « Voyage d'Italie », sous-titré « Dictionnaire amoureux ». Et la formule lui a plu, il l'a reprise pour fonder une collection. Parce que j'aime beaucoup ces dictionnaires, c'est un peu aride et scolaire. Et amoureux, ça corrige, ça montre que c'est complètement subjectif, pas exhaustif, qu'on parle de ce qu'on aime, quoi.
Et puis bon, il faut reconnaître que chez vous, c'est vraiment ça aussi. C'est oui. À chaque article, on sent l'écrivain Dominique Fernandez derrière chaque entrée du dictionnaire. C'est un vrai plaisir de lecture. Effectivement, c'est très, très emballant comme lecture. Alors, dans cette fameuse collection, je disais que vous aviez déjà publié un dictionnaire amoureux de la Russie et un dictionnaire amoureux de l'Italie. Vous êtes, et tout le monde le sait, écrivain, critique. Et vous avez, je rappelle simplement pour nos éditeurs que vous avez publié Porporino ou Les Mystères de Naples, qui a eu le prix Médicis en 1974, et puis Dans la main de l'ange en 82, que vous êtes membre de l'Académie française. Et les quelques ouvrages que je viens de citer ne reflètent évidemment pas la liste exhaustive de vos œuvres. Pour mémoire, c'est juste pour situer Stendhal, pour nos auditeurs qui l'ignoreraient, de son vrai nom, Henri Bell est né en 1783 à Grenoble et il est mort à Paris en 1842, qu'il est l'auteur du fameux Le Rouge et le Noir, de La Chartreuse de Parme, de Lucien Leven, des ouvrages que des générations d'écoliers ont eu à étudier. Mais j'imagine que vous nous parlerez aujourd'hui de textes moins connus de Stendhal, car chacun de vos livres consacrés à un écrivain est justement une invitation à découvrir des textes de lui un peu plus méconnus. Et j'ajoute, pour avant que nous ne commencions, que Stendhal a été diplomate en Italie. Et j'imagine que là encore, vous nous en parlerez. Car comme vous le soulignez, dans ce dictionnaire amoureux de Stendhal, cela a eu beaucoup d'importance sur la genèse même de Stendhal écrivain. Alors, peut-être pour commencer, une question très large, avant d'entrer dans les entrées du dictionnaire. En quoi consiste l'art de raconter de Stendhal ?
C'est la simplicité. Vous savez, il a dit cette phrase merveilleuse que je cite. Les chefs-d'œuvre immortels ont été faits sans penser au style. En quoi il distingue tous les autres écrivains? Lui qui a un merveilleux style, il ne pense pas au style. C'est complètement naturel. Il est naturel. Il a l'impression qu'on cause avec lui. C'est ça qui est merveilleux chez lui. Je ne connais aucun autre écrivain au monde. Il ne prend jamais la posture d'écrivain. Il n'est jamais regardé comme je suis écrivain, comme Flaubert ou Chateaubriand, ou Proust, ou tous. Non, il écrit comme ça, comme on causerait.
Ça crée un lien de proximité très fort, oui, avec le lecteur.
Ah oui, moi je trouve que c'est comme un ami. Et surtout, alors, les textes autobiographiques, La Vérité d'Henri Brulard, Le Journal, La Correspondance, c'est vraiment un homme qui est de plein pied avec vous, qui n'est jamais sur un socle comme ça, une pose. C'est pas un monument, Stendhal. Tous les autres écrivains, même Balzac, Zola, ce sont qui est intimide. Stendhal n'intimide pas.
Est-ce que c'est un reflet de sa personnalité ou c'est son parti pris
d'écrivain? Non, c'est comme ça. Non, c'est pas un parti pris. Il était comme ça, il était naturel. Mm-hmm. C'est vraiment un homme naturel. Et pleinement lui. Enfin, je veux dire, être soi-même, c'est vraiment ça son secret.
Alors, habituellement, vraiment dans les clichés, on parle souvent de psychologie quand on évoque la littérature de Stendhal. En quoi a-t-il été novateur sur ce qu'on retient comme ça de lui habituellement?
Je ne sais pas. Enfin, c'est un des premiers romanciers quand même. Il faut rappeler que Le Rouge et Noir, c'est 1830-32, par là. Donc le roman n'existait pratiquement pas encore. C'est aussi la naturelle. Il décrit les gens comme il suit son héros, son héroïne. Il décrit très simplement. Mais ce n'est pas un psychologue comme Proust ou comme... ou comme après, il ne fouille pas, il montre les gens en action et en train d'agir. Je veux dire, il y a une correspondance entre ce qu'ils pensent et ce qu'ils font. C'est la rapidité, tout ça. C'est un style rapide et les héros sont des gens rapides, sont des jeunes toujours. Julien Sorel, Fabrice Del Dongo, Lamiel, Lucien Leven. C'est ça son secret.
Ce sont des personnages, aujourd'hui on dirait classiques entre guillemets, mais vous rappelez que ce sont tous des gens jeunes.
Oui.
Comment on peut expliquer cette...
Mais je crois que c'est parce que c'est une projet. Lui-même ne s'aimait pas, il se trouvait laid, il était gros, il pesait 100 kilos, il avait des cheveux de teint, il avait même une perruque, je crois, à un moment. Et il voulait plaire, et donc il s'est projeté. Pour lui, l'art du roman, je crois, c'était de se projeter dans des doubles qui avaient toutes les grâces qu'il n'avait pas. C'est-à-dire, il était beau, il était jeune, il était riche, souvent. Pas Julien, mais Fabrice. Il était italien, en plus. C'est-à-dire qu'il a créé des doubles où il s'est projeté, parce que c'est toujours le même personnage, en fait. C'est lui s'imaginant avec des avantages qu'il n'avait pas en réalité. Donc, ils sont forcément jeunes. Mais la Chartreuse, il y a aussi Mosca, qui sont moins jeunes, mais le pur héros stendhalien, c'est quelqu'un de jeune, de conquérant, de beau, aimé des femmes, et tout ça, tout ce que lui n'avait pas.
Alors, dans votre dictionnaire, on trouve évidemment des entrées à chacun de ces personnages. Oui. On trouve aussi une entrée à force, à beauté, évidemment, chez Stendhal. Restons un petit peu sur ces personnages. Le héros stendhalien, lequel choisiriez-vous pour en parler à nos auditeurs là?
Je ne sais pas. D'abord, il faut dire que c'est vraiment des héros, au vrai sens du mot. Parce que maintenant, on dit héros de roman pour n'importe quoi.
Oui.
Même pour Siménon, où c'est des anti-héros. Ce sont des héros, c'est-à-dire comme des statues grecques qui sont parfaitement belles, parfaitement des modèles. Ce sont des modèles. C'est ça, un héros, c'est un modèle. Et les personnages de Stendhal, ce sont des modèles d'énergie, d'intelligence, de beauté, de réussite. C'est ça, le héros. Alors, quand on est jeune, on préfère le rouge et le noir, d'habitude, puisque c'est la courbe, c'est l'ascension, la conquête par un provincial pauvre de la haute société de Paris. Et quand on mûrit, on préfère la Chartreuse de Parme parce qu'il y a une mélancolie due à l'âge. Justement, il y a des personnages plus... Le comte Mosca, qui est très important, la Sainte Séverine, qui est une femme qui avait déjà vécu. Mais je ne peux pas dire qu'on préfère l'un à l'autre.
Et parmi les thèmes de prédilection de Stendhal, il y a évidemment la passion, mais la vanité...
Non, il est contre, justement.
Oui,
il oppose toujours la France et l'Italie. Il dit que... La France est le pays de la vanité, où on se modèle sur les autres, on écoute les modes. Et l'Italie, pour lui, c'était le pays de la passion, où on est entièrement dans ce qu'on fait, on ne s'occupe pas, on va jusqu'au crime même. Dans les chroniques italiennes, par exemple, il raconte des histoires de la Renaissance italienne avec une jubilation, c'est des histoires épouvantables d'assassinats.
C'est des chroniques qu'il a écrites quand il était
consul, l'activité avec. Mais ça, c'est purement une idée de mythologique, parce que l'Italie n'est pas plus ni moins passionnée que la France, en réalité. Hein, mais enfin, comme il n'est pas la France, idéaliser l'Italie comme pays de la vérité. Enfin,
quel rapport, en fait, avait-il avec son temps, avec son époque? Vous avez l'air de nous le présenter comme une personnalité en opposition, quand même, avec...
Non, il n'aimait pas son temps, et son temps n'aimait pas. Vous savez qu'il est mort inconnu. Complètement inconnu.
Le Rouge et le Noir n'a pas eu de succès.
Le Rouge et le Noir a été vendu à 1000 exemplaires et la Chartreuse même pas. Et on l'a découvert 40 ans après sa mort. Il avait prévu d'ailleurs, il avait dit je serai lu 40 ans après ma mort. C'était en 1880 qu'on a commencé, Paul Bourget et d'autres ont commencé à dire mais il y a un grand écrivain qu'on a oublié pendant 40 ans, il était complètement oublié. Il aurait pu disparaître d'ailleurs. Quand on y pense, c'est terrible parce qu'aujourd'hui, vous savez que les livres vont très vite. Au bout de 3 mois, s'ils ne se vendent pas, on les pilonne. Donc. Les livres de Stendhal auraient pu disparaître sans... Il y avait quelques aficionados, sans doute, qui ont conservé des exemplaires et qui ont pu les ressortir, mais on aurait pu le perdre. Parce que quand il est mort, vous savez, il y a eu un entrefilé dans un journal en disant « L'ancien consul de Civitavecchia est mort ». On n'a même pas dit que c'était un écrivain. Ça me paraît inouï aujourd'hui. Mais... Donc il n'était pas du tout dans son temps, alors qu'il est... C'est peut-être pour ça qu'il est tellement moderne, tellement actuel, parce qu'il n'est d'aucun temps. Il n'est pas du tout de 1830. Et il était trop naturel pour plaire. Enfin, il y avait trop de mode à l'époque, trop de... Il fallait être romantique, classique, ceci. Lui, il était lui-même, et ça, on ne pouvait pas le caser nulle part. Et donc, on l'ignorait.
Alors, comment... Pourquoi finit-il par rejeter... Vous parliez de la France, mais de même sa ville natale. Pourquoi ce rapport si passionné, justement, avec l'Italie ou la France?
Non, parce qu'il était donc de Grenoble. Il détestait la ville, parce qu'il détestait son père, surtout, et sa tante. Il adorait son grand-père. Il a perdu sa mère très jeune, il faut dire, à 6 ans. Donc, il n'a pas eu de mère. Et il adorait le père de sa mère, le grand-père Guignon. C'est le seul qu'il aimait. Et son père, était en conflit. Et donc, et l'abbé qu'il a, son précepteur, l'abbé Ryan, qui haïssait absolument. Et donc, tout ça s'est rejeté sur sa ville natale. Et du coup, c'est l'Italie qu'il a découvert à l'âge de 17 ans, qu'il a tout de suite idéalisé, qu'il a été absolument subjugué par l'Italie, et il a vécu la moitié de sa vie.
Comment vous qualifieriez le regard qu'il avait sur son époque, justement?
Ah ben, il détestait l'époque, parce qu'il faut rappeler que c'était la Restauration, hein. Lui, il était dans l'admiration de Bonaparte. Sur Bonaparte, hein, Napoléon,
pas Napoléon.
Moins. Mais Bonaparte qui était le héros pour toute cette génération, hein, pour plusieurs générations. Exemple du jeune homme qui, par son seul génie, transforme le monde. C'est comme un exemple, absolument. Et alors donc lui, quand il est né en 82, donc en 1815, il a 30 ans.
Oui.
Et là, c'est la Restauration, c'est-à-dire tout ce qu'il déteste, la réaction, l'obscurantisme, le pouvoir des prêtres, les lois sur la censure, tout ça, l'absence de liberté totale. Et il était là violemment en opposition contre son époque, qui était une époque assez affreuse, il faut dire, vraiment de réaction contre la Révolution, contre tout ce qu'il y avait eu, contre le progrès, contre tout ça. Et en particulier, une réaction religieuse. Et lui était complètement athée. Et il y avait quand même le pouvoir des prêtres qui ont pris possession, qui avaient le pouvoir.
Êtes-vous admiratif de ces capacités d'écrivain aussi?
Ben bien sûr, évidemment. Ben c'est, sinon, on ne serait pas là en parler.
Vous êtes stendhalien. Est-ce qu'être stendhalien, ça a un sens?
Ah oui, c'est un sens. C'est un sens particulier. C'est une confrérie de gens qui aiment le naturel, qui aiment l'irrespect, qui a été très irrespectueux. Ça veut dire le dédain des modes, dédain de l'opinion. C'est pas être contre l'opinion ou pour, c'est être soi-même, indépendamment de ce que les autres pensent. On dit ce qu'on pense, puis voilà. Et par exemple, en musique, il aimait Cimarosa, et on dit aujourd'hui, mais c'est un musicien pas tellement important, il le met sur le même plan que Mozart. Ben oui, mais lui, il aimait autant, ben voilà, il le dit. Il se fiche pas mal que ce soit correct ou pas. Vous voyez, la notion de correct, de politiquement correct, de littéralement correct, lui, absolument étrangère, même odieuse. Il est lui-même. Il a créé un mot qui est égotisme, souvenir d'égotisme. Ça ne veut pas dire égoïsme ni égocentrisme, ça veut dire avoir le courage ou la simplicité d'être soi-même. J'aime ça, même si les autres n'aiment pas, s'il n'y a pas de valeur, moi ça me plaît, puis voilà.
Est-ce que c'est le signe de la plus belle des libertés?
Oui, parce que nous sommes tous, malgré tout. Aujourd'hui, c'est bien pire, encore la pression des médias. Il faut faire ci, il faut faire ça. Regardez l'exemple d'exposition Hopper, par exemple. Bon, c'est un bon peintre, mais enfin, c'est pas un génie. Il y a trois mois, personne en France ne connaissait son nom. Personne, à part. Et après, tout le monde fait 3 kilomètres de queue, se croit obligé de voir au père. C'est ça, c'est ridicule. Ça aurait fait rire Stendhal. Qu'on ait cette espèce d'obligation qu'on a de suivre. On vous lance par une pression médiatique, on vous dit, vous ne pouvez pas vivre sans connaître au père. Alors, tout, on y va. Je ne dis pas que c'est un mauvais peintre, mais enfin, c'est pas... Il y a un rapport entre les gens ne sont plus libres de ne pas y aller.
Alors, je vous posais la question, là, au départ, êtes-vous admiratif de ses capacités d'écrivain, simplement parce que, bon, d'avoir écrit la Chartreuse de Parme en 52 jours, ça laisse baba,
oui,
mais écrivain ou pas,
oui,
on se demande ça. Comment c'est possible.
Oui, mais c'est toute
alors,
une
vous
vie.
Si,
je comprends très bien.
Comment vous pouviez nous en parler, justement, de cette...
Non, mais c'est le résultat de toute une vie, ça. Vous savez, il y a des livres qu'il n'arrivait pas à écrire. Par exemple, Lucien Devenne, j'ai vu les manuscrits à Grenoble, il y a des petits bouts, il n'y a pas. D'ailleurs, le texte qu'on lit, c'est une reconstitution par des érudits. Ben, Chartreux, c'est venu d'un seul coup, donc il a dicté en 52 jours. Moi, ça ne me paraît pas... C'est magnifique, mais je veux dire, c'est l'idéal pour un écrivain. Il faudrait jamais quitter son livre. Il faudrait ne pas dormir, ne pas manger pendant... Et un vrai livre devrait s'écrire en 2-3 mois. On ne peut pas physiquement, puis les tâches, les devoirs, les métiers, tout ça, mais c'est pas du tout... Comme il est naturel, l'histoire se déroulait toute seule, si je puis dire.
Vous avez connu une telle expérience sur l'un de vos
livres ? Non, parce que je sais pas. C'est unique, je veux dire, au monde. L'histoire de Chartreux, c'est 52 jours, personne ne l'a fait. D'habitude... Mais il ne se relisait pas aussi, il y a une indulgence, comme on dit. Moi, j'aime beaucoup. Il y a 4 fois le mot affreux dans une page.
Le fameux naturel, peut-être.
Moi, je trouve ça très bien. Il répète. C'est pas du tout. C'est le contraire de Flaubert, vous voyez. Si vous voulez, Flaubert réécrivait sans cesse, pesait, lit à haute voix, il lisait, et tout ça, scrupuleusement. Il était perfectionniste. Pas du tout Stendhal. Ça, il jetait ça, puis hop, ça partait à l'imprimerie, puis voilà.
Quel est, pour vous, le chef-d'œuvre de Stendhal ?
Pour moi, je vous dis, ça dépend des âges. Je crois que c'est Henri Brulard, La vie d'Henri Brulard, qui est une espèce d'autobiographie, HB, Henri Bell, hein, qu'il a écrite à 50 ans, quand il était à Rome, et qui est merveilleux, parce que alors, c'est une liberté de ton absolument fabuleuse. C'est pas un roman, hein, mais c'est pas une autobiographie suivie, c'est pas une moment entre tombes. Ce sont des bouts, des fragments de sa vie. Mais c'est d'une intelligence, c'est d'une liberté, d'une insolence absolument, moi je trouve merveilleux.
Alors, quand les lecteurs ouvriront le dictionnaire amoureux de Stendhal, ça commence par absolu.
Oui.
Et ça commence aussi par une autre nouvelle de Stendhal qui vous a beaucoup,
ah oui,
beaucoup plu. Et c'est pour ça que je pensais que la réponse que vous alliez me faire concernait Francesco Arripa. Dont vous parlez, justement à cet article absolu où vous vous interrogez sur quelle est l'œuvre de Stendhal qui pourrait le mieux résumer sa philosophie.
Oui, mais c'est des œuvres courtes, je dis.
Voilà, dans les œuvres courtes.
Chaque grand écrivain a fait une œuvre courte.
Pour expliquer justement sa vision du monde.
Enfin, ça arrive souvent. Je disais, le dernier abercérage pour Chateaubriand, que personne ne lit...
Oui, alors c'est un bijou hein, de lire cet
merveille.
Article.
Hein, et justement, les gens qui n'aiment pas Chateaubriand devraient lire ça, je dis, parce qu'en 30 pages, c'est absolument un chef-d'œuvre. Et j'en cite quelques-uns.
Oui, pour Balzac, vous citez La femme abandonnée.
Oui.
Pour Chateaubriand, donc Les aventures du dernier à Bancérage. Pour Hugo, Claude Gueux.
Qui
est bien étudié dans les écoles. Hein, quand
oui, maintenant, oui, parce que le côté
parce
social,
qu'autrefois,
le côté
justice, peut-être. Oui. Mais on sent aussi tout le reste. Pour Tolstoï, vous étiez venu nous en parler, La mort d'Ivan Illich.
Oui, bien sûr. Oui.
Et puis, citons pour Conrad, Le compagnon secret.
Alors, c'est extraordinaire. Mais je pense que c'est des œuvres peu lues, parce qu'elles sont courtes. Vous savez, les gens, surtout en France, on aime mieux les romans que les nouvelles. Et souvent, un grand écrivain de romans écrit dans une nouvelle... Le condensé de...
Et je ne résiste pas pour Goulgakov, Cœur de chien, et pour Paul Morand, qui était aussi
Flèche
à l'Académie. Flèche
d'Orient.
Ah,
c'est merveilleux, Flèche d'Orient, c'est extraordinaire. Oui, c'est des œuvres moins connues en général, et je trouve que c'est les plus réussies.
Alors, pour Stendhal, dans cet exercice que vous imposez, dans cette interrogation, vous citez Francesco Arripa. Si j'en parle, c'est parce que c'est pour donner simplement envie à nos lecteurs d'ouvrir et de découvrir ce dictionnaire, c'est parce que ce sont les premières pages et ça signe vraiment du Fernandez, parce que tout de suite on rentre dans une église, bon c'est le lieu en question, mais toutes ces entrées sont des entrées aussi sur le monde des arts, sur la littérature, on sort, là on a toute l'épaisseur aussi de votre propre culture, on en profite magnifiquement.
Il a écrit l'histoire de la peinture en Italie, il a écrit un livre sur Rossini. C'était un fou d'art, enfin de peinture et de musique.
Est-ce qu'il y a des mots stendhaliens ?
Oui, j'en cite. Mmh. Enfin, il y en a qui n'ont pas vécu comme pouf, pof plutôt, puff. C'est un mot anglais qui n'a pas... C'est dommage, on a tellement d'anglicisme inutile.
Alors, parlez-nous de cela.
Il prend l'anglais parce qu'il aimait beaucoup l'Angleterre. Il a d'ailleurs collaboré à des revues anglaises. Et puff, c'est une réclame... mensongère, on dirait aujourd'hui, une publicité mensongère. C'est-à-dire parler d'un livre médiocre en disant à lire d'urgence, chef-d'œuvre, tout ça, ce qu'appelle le puff, Et ça, c'est merveilleux parce qu'on est envahi de ça aujourd'hui. Tous les livres qui paraissent, on vous vante ça comme des chefs-d'œuvre, et ça peut être des navets épouvantables. Et ça s'appelle Poffé, ça. Poffé, avec un U, ou bien il a francisé en Poffé. Et ça, bon, ça c'était un mot saint-alien. Et puis, ben, égotisme, il a créé ce mot, égotisme. C'est quand même très important, très, très intéressant, ça veut dire être soi-même.
Et puis, le nom de Stendhal est associé, est accolé à la fameuse notion de cristallisation. Oui, on ne va pas y échapper.
Il dit qu'au début d'un amour, on part, la personne aimée, de toutes les vertus, si elle est idiote, elle est intelligente, etc. Parce qu'il est allé dans une mine de sel en Allemagne, il a vu, si on met un rameau, une branche d'arbre, dans ces mines, les petits cristaux de sel s'accrochent à elle. Ce qu'il appelle, elle cristallise. C'est-à-dire qu'elle attire, elle brille de
mille feux.
Elle brille de choses qui ne lui appartiennent pas, au fond. Et alors, la personne aimée, et comme ça, on cristallise autour d'elle. Et ça dure, dit-il, 2 ou 3 ans. Et on vérifie aujourd'hui, puisque les mariages durent 2 ou 3 ans aujourd'hui. C'est la moyenne. C'est-à-dire que la passion, ça dure. Après, ça, c'est plus ça. C'est la routine ou la convenance, mais c'est pas. La passion, la cristallisation. Après, on décristallise lentement.
Plus ou moins. C'est une autre histoire. Et était-il étranger dans ces romans? Il n'y a pas de personnage en couple qui dure, justement.
Non, mais ça, c'est rare dans les romans. Hein, ouais. En général, dans les romans.
Ça fait moins rêver.
Oui, l'histoire de mariage heureux, c'est très ennuyeux. Donc, Il y a ça, si, chez Tolstoï, mais en général, c'est toujours des tragédies. Regardez Balzac, regardez Flaubert.
Est-ce que ça vous paraît étrange qu'il ne se soit pas posé cette question sur la... est-ce que... vous dites, hein, vous écrivez, qu'il n'a pas pensé au cas de figure où l'amoureux cristallise sur une personne qui ne l'aime pas.
Il a passé son temps à faire ça.
À faire ça.
À cristalliser, oui. Parce qu'il faut dire, genre, à propos de couple, tout ça, que c'est le seul grand écrivain connu qui n'ait pas eu de liaison durable. Il ne s'est pas marié, mais il n'a pas eu une grande maîtresse comme André Camier pour Chateaubriand, comme celle du Hugo, là.
Pour Balzac.
Il n'a pas eu de. Il a eu des dizaines de maîtresses, mais c'est toujours été précaire, rapide. Il s'est mis en ménage une seule fois 15 jours avec une petite actrice de l'Odéon. Mais c'est pas un homme du couple du tout. Hein. Je crois qu'il était d'ailleurs trop libre pour vivre avec quelqu'un. Et c'est un homme profondément seul.
Quel héritage littéraire laisse-t-il alors? Énorme, vous allez me dire, bien sûr. Immense.
C'est difficile à dire. Oui. Je sais pas, il est unique dans son genre. Je veux dire, c'est pas seulement un romancier, c'est une personnalité. C'est très difficile à dire ce qu'il a laissé, parce qu'il n'y a pas de. Il y a des milliers d'héritiers en littérature.
Qu'est-ce que c'est que le bellisme?
Le bellisme, c'est ça. Le bellisme, c'est être soi-même aussi. C'est essentiel. C'est très rare d'être totalement naturel et indépendant de... Alors, il faudrait le comparer avec d'autres pour comprendre, vous voyez. Balzac, c'est un créateur, c'est un démiurge. Ce qu'on n'est pas Stendhal. Parce que ces personnages sont les doubles de lui. Balzac, il crée un monde total, depuis l'ouvrier jusqu'à la duchesse, c'est tout à fait autre chose. Flaubert, c'est le style, par le style que ça tient. Proust aussi. Zola, c'est le monde social. Stendhal, c'est lui-même, c'est un homme qui a été lui-même, qui a eu le courage d'être lui-même, qui s'est montré lui-même avec ses défauts, ses emballements, ses échecs, parce qu'il a une vie très malheureuse au fond. Hein. Il a été trompé par ses maîtresses, il était tout le temps amoureux, et puis ça ratait toujours. Mais c'est un homme un être humain, enfin, qui a été lui-même totalement naturel et qui se montre naturellement. C'est ça qui est très beau.
La mémoire l'emporte sur l'imagination chez Stendhal?
Non, parce qu'il imagine, et tout. Non, ça, on ne peut pas dire ça.
Et il y a une entrée à Épitaphe.
Épitaphe, oui, qui a été truquée, son épitaphe.
Ouais.
Il avait dit qu'il voulait, être sur sa tombe. Hein. Ouais. Il s'y gît Enrico Belle, c'est son nom, milanese, parce qu'il adorait Milan, c'est sa ville préférée. Et il voulait mettre visse, scrisse, amo, c'est-à-dire il a vécu, il a écrit, il a aimé, en dernier. Hein.
Et son en cousin, dernier, c'est visse.
Son cousin Romain Colomb, qui a d'ailleurs contribué quand même à sauver l'œuvre de Stendhal, puisque c'était des manuscrits comme ça, a changé l'ordre et il a mis scrisse, amo, visse. Ce qui est stupide, parce que visse, c'est le moins important. Il y avait une progression, visse, vécu, c'est tout le monde vit. Puis scrisse, c'est son occupation, et amo, c'était pour lui, parce que toute sa vie était centrée sur l'amour. Alors lui, il commence par écrire, puis aimer, puis vécu pour finir ce qui est plat. Alors c'est ça qu'on voit au cimetière Montmartre.
Vous avez eu l'œil sur tout.
Ah ben, je suis allé voir sa tombe, c'est très beau le cimetière Montmartre, c'est un des plus beaux de Paris, parce que c'est un vieux cimetière avec des gros pavés, il y a énormément d'écrivains, d'artistes, et c'est le plus beau cimetière de Paris. Il y a très peu de monuments hideux comme dans les autres grands cimetières de Paris.
Et vous dites que, d'ailleurs, pour la musique, justement, il est bien servi, il est bien entouré, que ses voisins plus ou moins proches dans le cimetière sont des compositeurs qu'il aurait apprécié.
Oui, oui.
Qu'il aurait apprécié. Offenbach pour sa verve, Ambroise Thomas pour avoir puisé un livret dans le Hamlet de Shakespeare, Léo Delibes pour ses opéras comiques, les Sœurs Boulanger pour leur lyrisme, Henri Sauguet pour son esprit. Enfin, bon. Il aurait voulu être enterré dans les environs de Paris, au cimetière d'Andilly, près de Montmorency.
Oui, mais il avait dit si c'était trop compliqué qu'on le mette à Paris. Quoi.
Voilà. Là aussi, on est dans la simplicité.
Oui.
Quand même dans les choses les plus simples. Enfin, bon,
Oui, c'est pas Chateaubriand qui se met sur un îlot.
Même époque, pourtant. Enfin, même, ils ont connu les mêmes
pratiquants. Oui, Chateaubriand a survécu. Ouais. Mais c'est l'anti-Chateaubriand. Il détestait Chateaubriand, d'ailleurs, il le dit. C'est les phrases pompeuses de Chateaubriand. Il n'aimait pas Hugo non plus. Il trouvait que c'était beaucoup trop littéraire, rhétorique. Ce qu'il aimait, c'est les gens du 18e. Hein. Voltaire, les gens comme ça, les gens Saint-Simon, les gens un peu secs, un peu comme lui, quoi. Pas de pathos, pas de lyrisme, pas de romantisme.
Et il a songé à se présenter à l'Académie ?
Alors ça, il a dit quand il était jeune qu'à 60 ans, il penserait peut-être à l'Académie. Il est mort à 59 ans. Alors moi j'imagine, ça c'est moi qui imagine, qu'il est mort, vous savez, sur le trottoir, rue Neuve des Petits Champs, qui est la rue Casanova, je crois, aujourd'hui, près de la rue de Richelieu, là, pas loin d'ici. Et il revenait de chez Madame Ancelot, qui était une dame de lettres, dont le mari était à l'Académie, et elle était réputée pour faire les élections. C'est autrefois, il y avait des salons littéraires où les femmes, ça a disparu, c'est aujourd'hui. Mais jusqu'à la guerre, c'était comme ça.
Jusqu'à la guerre.
Ah ben oui, il y avait, je sais pas, Marie-Laure Noailles,
oui,
je sais plus qui. Mais quand on lit l'histoire de Mauriac, par exemple, ça se faisait dans des salons. Ici, ça a disparu, il y a plus de salons littéraires. Enfin, donc, c'est Madame Ancelot. Alors, on ne sait pas ce qu'il lui a dit, parce qu'il est revenu, il est mort, mais moi, j'imagine qu'il est mort. Parce qu'en même temps, il se moquait de l'Académie, c'était normal, c'est presque obligatoire. Et en même temps, il voulait en être, donc il y a une telle contradiction qu'il en est mort. Bon, parce qu'il est tombé raide sur le trottoir, justement. Parce qu'il s'était moqué de l'Académie. Il rend compte d'une séance à l'Académie, il dit « Monsieur le directeur parlait et... » Et pendant qu'il parlait, tout dormait. Et comme tout le monde, c'était presque un cliché. Il faut se moquer de l'Académie. Mais en même temps, il pensait, parce que... Mais ça, on ne saura jamais, parce qu'il n'y a pas de texte, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de document écrit.
Et vous avez fait une entrée à Virtu.
Virtu, ben ça c'était un concept, c'est un alien. Enfin, c'est un mot italien qui n'est pas la vertu, c'est le même contraire. Virtus, c'est l'énergie. Hein. L'énergie d'être soi-même, justement, jusqu'au crime. Si on vous prend votre femme, ben on va tuer le type. Enfin, c'est ça. Et c'est ça qu'il trouve en Italie. C'est pour ça qu'il garde le mot virtu, qui est le mot latin, virtu, qui a été détourné dans le mot de vertu. Hein, le mot ennuyeux, vertueux, virtuoso. Vertu, c'est la personne qui va jusqu'au bout de ses convictions.
Voilà, on va peut-être rester sur ce beau mot pour Stendhal.
Oui, bah c'est tout à fait stendhalien, oui.
Voilà. Eh bien, merci Dominique Fernandez
d'être
venu nous présenter le Dictionnaire amoureux de Stendhal, qui ravira ceux qui aiment votre écriture, ceux qui aiment Stendhal et tous les curieux. Un dictionnaire, effectivement, qui se lit comme un livre. C'est le grand avantage de cette collection. Et on apprend, grâce à cette émission, que vous en étiez l'initiateur, en fait.
Oui, oui.
Même de l'idée. Merci en tout cas.
Merci à vous.
Au nom des lecteurs.